Donc à nouveau, bonjour, rebonjour à tout le monde. Donc j'espère évidemment que tout le monde va bien. Nous allons continuer de nous nourrir de la parole de Dieu en continuant l'étude sur la première épître de Jean. Et aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre numéro 4. Nous allons lire les versets 14 à 21. Alors, comme d'habitude, je vais vous lire le texte dans une version remaniée à partir de l'araméen. Donc, les formulations vont être pour vous inhabituelles, mais ça permet peut-être, en tout cas je l'espère, de coller un petit peu mieux au texte et de voir ce que ce texte a à nous dire. Donc, je vous lis d'abord ce texte, à partir du verset 14, 1 Jean 4. Et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé son Fils, le Rédempteur, c'est-à-dire celui qui nous rachète, le Rédempteur du monde présent. Tout homme qui confesse Jésus, à savoir qu'il est, lui, le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. Et nous nous sommes confiés et nous avons connu l'amour ardent que Dieu a envers nous. Car Dieu est amour, et tout homme qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et par ceci, son amour ardent est mené à terme en nous, afin que nous ayons une assurance visible sur nos faces, sur nos visages, au jour du jugement. Parce que, comme il a été, ainsi nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour ardent complètement rempli, jette au loin toute crainte. Parce que la crainte est dans la terreur, la crainte d'un danger. Celui-là qui craint n'est pas complet et abouti dans l'amour. Nous donc, nous aimerons ardemment Dieu parce que lui nous a aimés en premier. Or, si un être humain dit j'aime ardemment Dieu et il hait son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime pas ardemment son frère, qui est visible, comment peut-il être capable d'aimer ardemment Dieu, celui-là même qui n'est pas visible? Et nous avons reçu de lui ce commandement, à savoir que tout homme qui aime Dieu aimera aussi son frère. Donc voilà le texte du message pour ce matin qui termine donc le chapitre 4. Et comme d'habitude, je vais reprendre un certain nombre d'éléments des versets et donner un petit commentaire. Tout d'abord, la première chose qui m'a frappé, c'est nous avons vu. Au verset 14, ça commence ainsi, nous avons vu. Alors, ça veut dire quoi nous avons vu et nous avons vu quoi? Alors, quand on lit l'évangile de Jean, nous lisons que en Jésus, en la parole, c'est-à-dire Jésus est la vie, et la vie est la lumière de l'homme. Ce sont des expressions dont on a l'habitude, mais est-ce que on s'est posé la question de savoir, mais que veut dire que en Jésus et la vie, et en quoi sa vie serait ma lumière. Et des fois, je crains que ces expressions-là soient un petit peu abstraites. On les lit, mais on ne médite pas forcément sur ce que cela veut dire. Donc, c'est ça que je voulais déjà préciser ici, puisqu'il est dit, nous avons vu le Seigneur, donc on le voit évidemment par la lumière, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire que la vie de Jésus est notre lumière? Et la manière dont je le comprends, c'est la manière suivante. L'homme naturel est égocentré. Il est renfermé sur lui-même. Tout tourne autour de lui-même. Et c'est en ce sens-là, par cet égocentrisme, ce repli sur soi, que l'homme naturel est dans les ténèbres. Par contre, le chrétien qui a rencontré Jésus apprend à se tourner vers lui. Il n'est plus dans la fermeture sur lui, mais dans l'ouverture sur Jésus. Quand vous ouvrez les portes et les fenêtres d'une pièce, il y a la lumière qui rentre. Quand vous fermez les volets et les portes, vous êtes dans les ténèbres. Donc quand on ferme tout replié sur soi, on est dans les ténèbres, parce que nous ne sommes que des vases de terre. Et un vase de terre, vous le mettez dans une pièce, ça ne va jamais éclairer la pièce. C'est un vase de terre, c'est de la matière. Pour que le vase de terre puisse éclairer, il faut y mettre de l'huile, une mèche, et l'allumer avec une flamme. Donc en nous-mêmes, nous sommes des vases de terre. Sans l'huile de l'Esprit de Dieu, nous sommes incapables de porter de la lumière. Et pour recevoir cet Esprit qui nous permet de devenir source de lumière, il faut être centré sur Jésus. Autrement dit, il faut s'ouvrir à Jésus. Il faut ouvrir les portes et les fenêtres de notre âme pour être centré sur Jésus. Donc pour moi, c'est comme ça que je comprends la lumière versus les ténèbres. Les ténèbres, je ferme tout, je suis centré sur moi. La lumière, je me centre sur Jésus et par conséquent sur les autres. Donc fermeture, ouverture, ténèbres, lumière. Donc nous l'avons vu, c'est-à-dire que nous sommes ouverts à lui. Et c'est en ce sens qu'il devient notre lumière, parce qu'on ouvre les portes et fenêtres de notre âme. Ça fait penser donc, et c'est là que je faisais allusion à ça tout à l'heure quand Jean-Louis parlait de l'œil, ça me faisait penser à ce passage dans Luc 11, les versets 34 à 36. La lampe du corps, c'est ton œil. Quand ton œil est sain, en bonne santé, tout ton corps est éclairé. Mais s'il est mauvais, ton corps aussi est ténébreux. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc ton corps est éclairé tout entier, n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera tout entier éclairé, comme quand la lampe t'éclaire par son éclat. Alors de manière concrète, et comme souvent, Jésus prend des exemples de la vie courante, et il dit par exemple, pour éclairer le corps, on ne va pas pouvoir utiliser la main, l'oreille, le nez, le pied. Ce qui éclaire notre corps, c'est notre œil. Ce qui éclaire notre corps, c'est notre œil. Donc la lumière, elle passe par notre œil et c'est ainsi que le corps reçoit la lumière et que le corps peut être conscient de son environnement. Mais nous avons également dans la parole, dans Éphésiens 1, 18, ce qui s'appelle les yeux du cœur. Et les yeux du cœur, ce sont ceux qui voient Jésus. Donc si les yeux du cœur sont fermés, sont aveugles et sont morts, c'est ce que dit là Jésus, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vois par les yeux de ton corps, tu vois par les yeux de ton intelligence, par ta conception, ton intelligence, mais tu ne vois pas par les yeux du cœur. Donc on peut confondre la lumière naturelle, la lumière de l'intellect, la lumière de la raison, avec la lumière spirituelle qui éclaire les yeux du cœur. Donc voir Jésus, c'est voir avec les yeux du cœur. Et dans le contexte du Luc 11, juste avant, les versets avant, vous pourrez les lire, Luc 11, verset 34, donc juste avant, il dit « Mais ici, devant vous, il y a plus que Salomon. » Ici, devant vous, il y a bien plus que Jonas. Et les religieux qu'il avait en face de lui n'étaient pas capables de discerner qu'ils avaient en Jésus bien plus que Salomon et que Jonas. Les yeux de leur cœur étaient fermés, étaient voilés, parce qu'ils étaient centrés sur eux-mêmes et non pas sur Dieu et son Messie. Et ça me faisait penser à ces passages dont je vous en lis deux. Évidemment, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 9, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais également, un passage de l'Ancien Testament, dans 2 Samuel 22, verset 29, oui, tu es ma lumière, ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Naturellement, je suis dans les ténèbres. Ma chair est dans les ténèbres et c'est l'Éternel qui met la lumière. Toujours dans le verset 14, il est dit, nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme rédempteur, comme racheteur. Donc ce qu'il rachète, évidemment, c'est notre corps et notre âme. C'est bien pour ça que l'on prend la scène. Le pain comme symbole du corps, le vin comme symbole de l'âme. N'oubliez pas que l'âme est dans le sang, nous dit la Bible. Donc en prenant la scène, en mangeant le pain et en buvant le sang, nous attestons en fait que Jésus, en livrant son corps et son âme, c'est-à-dire en versant son sang à la croix, a payé le prix de notre rachat. Donc il a littéralement acheté nos corps et nos âmes en donnant son corps et son âme en prix et en rançon. Et cette notion de rachat, on la trouve évidemment déjà dans la première alliance, dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans Ésaïe 43, verset 1, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dans Ésaïe 63, verset 9, dans leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés, l'ange ou le messager. Il les a lui-même rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Et enfin, dans Galates 3, verset 13, Jésus nous a rachetés de la malédiction de la croix, de la loi, pardon, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc réalisons vraiment que lorsque Jésus s'est offert à la croix, c'était pour payer quelque chose. Corps, son corps pour nos corps, son âme pour nos âmes. De telle manière, par sa résurrection à lui, de pouvoir provoquer notre résurrection. Mais pour ça, il a fallu qu'il paye le prix de son corps et de son âme, le pain et le vin. Donc c'est en ce sens que Jésus nous a rachetés. C'est très concret, hein? Il s'est livré lui-même à la croix. Et enfin, dans juste un verset qui va unir la notion de lumière et de rédemption, dans Luc 1, verset 68. Et je ne lis que deux extraits de ce passage, donc à partir de 68, et l'autre extrait sera extrait des versets 78 et 79. Donc je lis juste des petits extraits. Il a visité et racheté son peuple au verset 68 et 78 et 79. Le soleil nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont ainsi assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Donc il y a un lien très étroit entre recevoir la lumière de la vie dans notre esprit et être racheté de corps et d'âme par la croix. On ne peut pas séparer les deux. Et enfin, j'aime beaucoup rappeler que Jésus occupe une position unique. Pensez à toutes les créatures visibles et invisibles, le monde angélique, les animaux, les papillons, les poissons, tout ce que vous voulez, les êtres humains. Eh bien, quand vous considérez toute la catégorie des êtres créés de Dieu, il y a un être qui est absolument unique et c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui est à la fois homme et Dieu. Et par expérience, quand on médite sur l'unicité du Fils de Dieu, son humanité, sa divinité, les deux conjugués ensemble, on ne peut qu'être admiratif, on ne peut que s'épanouir et être aspiré, avoir cette aspiration à être épanoui en lui, en méditant vraiment sur qui il est, comment il a allié en sa personne la divinité qui est caractérisée dans la Bible par une nature incorruptible et son humanité, c'est-à-dire son corps et son sang. Comme je l'ai dit, qu'il a donné à la croix. Et il concilie les deux. Donc pour moi, c'est toujours un objet de méditation que de réfléchir sur qui est Jésus. Mais qui est cette personne qui est rayonnante de l'intérieur, rayonnante d'un caractère absolument incroyable et merveilleux, et pourtant qui a pris une forme humaine pour se mettre à notre hauteur, à notre portée. Il est unique. Il est le Fils unique de Dieu. Au verset 16, il est dit que nous nous sommes confiés et nous avons connu. Certainement que dans vos traductions, vous avez « nous avons cru ». Mais voilà, le verbe « croire », pour moi, est un verbe qui est ambigu. Pourquoi ? Est-ce qu'il s'agit simplement de croire en un credo, de croire dans une confession de foi, de croire dans une théologie, autrement dit, est-ce que croire est une affaire d'intellect ? Ou alors, est-ce que croire, comme je l'ai traduit ici, nous nous sommes confiés ? On se confie en quelqu'un, on a confiance en quelqu'un, on est fidèle à quelqu'un. Confiance, fidélité et foi, c'est la même racine, c'est le mot fides en latin, et ça renvoie non pas à un credo auquel on doit adhérer intellectuellement, mais ça renvoie à une relation de confiance en Dieu. Donc là, il ne dit pas « nous avons cru le credo de notre Église », il dit « nous nous sommes confiés en lui, nous avons appris à lui faire confiance ». Et en retour, nous avons appris à lui être fidèle. C'est ça que veut dire croire. Donc la foi, vous voyez, n'est pas quelque chose comme ça d'instantané. La foi, c'est l'apprentissage d'une relation à Dieu, relation qui se développe au fil des jours, des mois et des années, relation dans laquelle nous apprenons à lui faire confiance et à lui être fidèle. Donc vous voyez, quand il est dit « nous nous sommes confiés et nous avons connu l'amour de Dieu envers nous ». Connaître l'amour de Dieu envers nous est un apprentissage, parce que naturellement, nous avons du mal à recevoir cet amour. Pourquoi ? Parce que nous sommes conscients de notre propre chair, nous sommes conscients de notre nature de péché, et nous nous disons « mais quand je vois ce que je suis, mais comment est-ce que Dieu peut m'aimer ?» Et c'est là qu'il y a une notion qui est fondamentale dans la parole, c'est la distinction entre ce que la Bible appelle la chair et l'esprit. La chair, c'est cette part égocentrée en nous, c'est ce que la Bible appelle par ailleurs le prépuce du cœur qui nous centre sur nous-mêmes. Alors que l'esprit, c'est ce qui nous ouvre à Jésus. La chair nous enferme dans ses ténèbres, si on l'a laissé faire, alors que l'esprit nous ouvre sur la lumière dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire sur Jésus. Et beaucoup de chrétiens ont du mal à mener cette dualité entre la chair et l'esprit. Parce qu'ils ne comprennent pas, tout simplement, que notre chair est irréformable. La chair ne changera jamais. Or, que fait l'homme religieux ? Il essaye de transformer sa chair afin de gagner la faveur de Dieu. Mais pour transformer sa chair, il passe son temps à la regarder, à la travailler, à l'analyser, à faire des efforts pour la juguler, et par là, il est centré sur lui-même. Il replonge dans les ténèbres. C'est le reproche que Jésus faisait aux religieux. Relisez à nouveau Jean chapitre 9. Alors que le chrétien, lui, ne fait pas des efforts à l'égard de sa chair, il fait des efforts dans sa relation à Jésus. Il se tourne constamment vers Jésus. Dans la prière, dans la vie au quotidien, dans la méditation de la parole, il s'ouvre vers la lumière qui est Jésus, sur la vie de Jésus qui est sa lumière. Et c'est comme cela qu'il désamorce la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'est pas dit « n'accomplissez plus les désirs de la chair et vous marcherez par l'esprit ». Donc faisons bien attention à ça. Tous nos efforts, ils sont faits et orientés dans la connaissance de Jésus, dans le fait de lui faire confiance, dans un apprentissage relationnel. Et c'est comme cela qu'on désamorce la chair. Et c'est comme cela que l'on reçoit l'amour de Dieu. Parce que c'est à Jésus que l'on regarde, et non plus à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre chair. Quand on regarde à notre chair, on la réactive. Quand on regarde à Jésus, on la désactive. Donc faisons attention à ça, que notre regard ne soit pas égocentré, et par conséquent ténébreux, mais christocentré, centré sur Jésus, pour que lui, par son esprit, puisse nous aider à vaincre les passions de notre chair. Au verset 17 maintenant, la pensée qui m'a frappé, c'est celle-ci. « Comme il a été, ainsi nous sommes dans ce monde. » Et il dit même que c'est ainsi que nous aurons de l'assurance au jour du jugement. Donc je rappelle quand même que le cœur de la parole, de toute la parole, c'est la personne de Jésus. Jésus apparaît dans les évangiles, et donc si on veut avoir un exemple de mode de vie, c'est à Jésus qu'il faut regarder, et on voit des exemples de vie, des tranches de vie de Jésus dans les évangiles. Donc, ce sont les évangiles qui nous donnent l'exemple des exemples. Ensuite, vous avez les écrits de Pierre, Paul, Jean, etc., Jacques, mais qui sont bâtis sur les évangiles. 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus. » La pensée de Paul, ce n'était pas de développer une pensée indépendante de celle de Jésus dans les évangiles, c'était d'imiter Jésus tel qu'il le comprenait dans les évangiles. Donc l'évangile est au cœur pour la révélation de Jésus, puis nous avons l'ensemble du Nouveau Testament qui s'agrège autour des évangiles et donc de Jésus. Et enfin, nous avons la première alliance, l'Ancien Testament, que l'on ne peut lire qu'à la lumière du Nouveau. Et là, je vous renvoie à Hébreux 10, verset 1. « La loi qui possède l'ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des choses. » Donc vous voyez que dans la parole de Dieu, il y a une hiérarchie. D'abord, Jésus, manifesté dans les évangiles, avec l'ensemble du Nouveau Testament comme écrin des évangiles, et enfin l'Ancien Testament que l'on lit à la lumière du Nouveau. Et donc, c'est dans les évangiles que nous voyons comment il marche et que nous trouvons l'exemple pour l'imiter. Comme il a été, ainsi nous sommes. C'est dans les évangiles que nous découvrons comment il a été afin que nous soyons comme lui. Donc faisons attention à cela. On rencontre, et ça m'arrive aussi, de rencontrer des chrétiens dont la perception de la Bible est à mon sens déséquilibrée et qui ont tendance à mettre l'Ancien Testament avant le Nouveau. Donc, et mettre l'accent donc sur la loi plutôt que sur la personne même de Jésus. Donc faisons attention à ça. C'est dans les évangiles, je le répète encore une fois, que nous trouvons l'exemple de vie et la manière dont nous devons nous comporter, à l'exemple de Jésus. Et là, il est dit « afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement ». Et là, on se demande, tiens, mais de quel jugement s'agit-il ? S'agit-il du jugement dernier ? C'est une possibilité. Mais nous savons que si le Seigneur nous a rachetés véritablement, s'il nous a donné son esprit et si nous lui appartenons, nous ne passons pas devant le jugement dernier. Au contraire, nous serons aux côtés de Jésus pour, comme le dit Paul dans Corinthiens, pour juger les anges et pour juger le monde. Donc, de quel jugement pourrait-il s'agir alors? L'autre possibilité, et c'est celle que je favorise sans être dogmatique, c'est le jugement du tribunal de Christ. Alors je sais que cette question du tribunal de Christ, il y en a plusieurs interprétations, donc je vais vous partager la mienne. Et après, vous la recevez ou pas. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs interprétations pour le tribunal de Christ. Pour moi, le tribunal de Christ, c'est ce moment où, quand je quitte ce corps, je me retrouve face à face avec lui. Et là, dans ce face à face avec lui, il me montre ce que lui a vu de ma vie. Il me montre des choses que je n'ai peut-être pas voulu voir encore, des restes de bouts de chair. Il me montre des choses dans lesquelles j'ai peut-être été têtu. Il me dit, mais là, tu vois. Ou alors des endroits où je me disais, mais je ne vois plus Dieu dans ma vie. Et il va me dire, mais regarde, là j'étais là, là je t'ai porté, là j'ai mis en place telle et telle situation. C'est ce moment où nous voyons notre vie entière comme lui l'a vue. Et non pas comme nous, nous la voyons en partie, partiellement, comme au travers d'un miroir. Là, il nous montre comment lui a vu notre vie depuis notre conception jusqu'au moment où nous le rencontrons. Donc ce n'est pas un tribunal de jugement et quelque chose à craindre. C'est simplement le moment où le Seigneur fait l'entière lumière sur notre vie et nous ne pouvons que nous tomber à genoux à ses pieds en lui disant « Waouh, tu as vraiment été gracieux, tu m'as fait grâce, tu as guidé ma vie, tu m'as éclairé, tu m'as conduit. Même dans les endroits où je t'ai résisté, tu as été patient. » Voilà, et c'est là qu'on réalise toute la compassion et l'amour de Jésus. Donc, c'est un jugement, un discernement, une mise en lumière qui est privée. Au contraire du jugement dernier, dans lequel les œuvres des perdus seront manifestées par la lecture de livres à la vue de tous. C'est la manière dont je comprends le tribunal de Christ, ce jour du jugement, du discernement, où nous nous retrouvons face à face avec lui. Et donc depuis des milliers d'années maintenant, chaque croyant qui meurt, depuis Abel jusqu'à aujourd'hui, quand il meurt, il paraît devant la face de Dieu, donc il paraît devant Jésus. Et là, j'allais presque dire, Jésus revisite l'histoire du croyant pour lui montrer, voilà, en quoi il était effectivement devant, derrière, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, et combien le Seigneur avait protégé par ses mains et encadré de sa grâce et de son amour. Et donc, là, il est dit dans le verset 17, « Si nous marchons comme Jésus a marché, alors nous allons le rencontrer, comme le dit l'araméen, avec une face ouverte, révélée, avec une assurance qui est visible sur nos faces. » Parce que nous le rencontrons de manière joyeuse, nous rencontrons celui en qui nous nous sommes confiés. Au verset 18, il est dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais que l'amour, en araméen, il est dit l'amour rempli. Et donc j'ai envie évidemment de compléter, l'amour rempli de l'esprit permet de jeter au loin toute crainte. Alors la parole nous dit que l'amour est l'accomplissement de la loi, donc c'est la relation à Jésus qui nous permet de dépasser le bien et le mal pour expérimenter la loi de l'esprit de vie dont il est question dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Et donc l'amour, expérience de la relation vivante avec Jésus par son esprit. Et si nous ne connaissons pas cet amour-là, autrement dit, si nous n'expérimentons pas ce face-à-face avec Jésus, alors il ne reste que la loi. Et vous savez, c'est assez facile de voir que quelqu'un marche par la loi. Pourquoi? Parce qu'il a une pensée qui est binaire. Il ne pense qu'en termes de bien, mal, vrai, faux, blanc, noir, gauche, droite, et toujours dans la confrontation avec deux points de vue. C'est la pensée binaire qui est une pensée légaliste et qui mène à la pensée sectaire. Le bien et le mal. Et si je puis dire, la relation à Jésus nous fait aller au-delà du bien et du mal. Nous fait dépasser la loi par l'amour, c'est-à-dire par l'arbre de vie, par la relation à Jésus. Donc faisons attention de ne pas nous enferrer dans des débats ou alors de ne pas nous laisser piéger par ceux qui veulent absolument nous faire prendre des positions binaires. Ah ben si t'es pas comme ceci, alors t'es forcément cela. Si tu ne crois pas en ça, alors c'est forcément cela. Et l'Église est remplie de débats binaires. L'arminianisme contre le calvinisme, le cessationnisme contre le charismatisme, et le laxisme contre le légalisme, ou le libéralisme contre le légalisme. Et je pourrais vous sortir comme ça des tas de choses qui divisent les églises, et là vous pouvez être sûr que l'amour n'a pas accompli la loi. L'amour n'est pas là. Il n'y a que des débats binaires dans lesquels on s'enferme ou dans lesquels on veut enfermer les autres. C'est ça qui crée la division dans les églises. Les cœurs ne sont pas centrés sur Jésus, ils sont centrés en fait sur la connaissance, et la connaissance polarise en débat binaire. Donc faisons attention à cela. L'amour accomplit la loi. L'amour permet de sortir de ces débats binaires qui ne font que diviser. Au verset 19, il est dit « Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. » Ça fait penser à Jérémie 31, verset 3. « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » L'amour commence avec Dieu. Réalisons, acceptons une bonne fois pour toutes qu'il n'y a pas d'amour naturel en nous. Là encore, c'est le religieux qui devient chrétien et qui va se dire « Ah ben bon, je dois aimer mon prochain, donc voilà, on commence à faire des bonnes actions à l'égard de notre prochain, etc. » On puise en nous-mêmes, dans notre supposée bonté naturelle. C'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la méditation du fait que lui nous a aimés en premier. Nous ne pouvons pas aimer l'autre en dehors de Jésus en nous. Donc soyons bien conscients de cela, sinon, eh bien, nous imitons l'amour parce que nous avons un caractère débonnaire, parce qu'on est plutôt sympa, on est plutôt cool, donc on essaye comme ça d'aimer le prochain. Mais ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est en Dieu et en Dieu seul. Et le seul moyen que cela puisse transparaître au travers de nous, c'est en fait de nous centrer sur celui qui est la source d'amour, sur Jésus. Là encore, de s'ouvrir à lui, d'entrer dans sa lumière à lui. Donc, ne puisons pas en nous la capacité d'aimer l'autre. C'est puiser dans notre chair. Mais passons là encore du temps à prier Jésus, à développer cette communion avec lui, et c'est lui qui va s'exprimer au travers de nous à l'égard de notre prochain. Donc, faisons attention à cela. L'amour débute avec Dieu. L'amour ne commence pas avec nous. Notre chair n'aime pas. Vous savez que dans le monde, il y a des gens qui essayent de se faire tout gentils, tout humanistes, tout mignons, tout plein, en se disant que si je suis comme ça, comme un petit agneau, eh bien on ne me fera pas de mal. On n'aura pas de raison de me faire de mal. Si j'aime comme ça le bon prochain comme un petit agneau. Eh bien, vous savez que les petits agneaux, ça veut dire les humanistes qui veulent se faire tout gentils, eh bien, la première des personnalités qu'ils attirent, ce sont les psychopathes, ce sont les pervers narcissiques, qui se font un plaisir à faire souffrir les petits agneaux. Donc, vous voyez, ça c'est l'exemple extrême. Je vais terminer avec une petite pensée sur le verset 20, où il est dit... Comment peut-on aimer Dieu que je ne vois pas si je n'aime pas le frère que je vois? Donc si je ne fais pas la démonstration dans la vie au quotidien de l'amour pour le frère, comment puis-je dire que j'aime Dieu que je ne vois pourtant pas? Et là, ça m'a amené juste à une petite pensée, c'est qu'effectivement le Père est invisible. Il habite une lumière que nul n'a vue et ne peut voir. Ça, c'est d'un côté. Donc Dieu le Père est invisible. Et il le sera sans doute à jamais, dans le fond de son être. Par contre, le frère en chair et en os que j'ai en face de moi, je le vois. Et celui qui fait la médiation entre les deux, c'est Jésus, que je ne vois pas avec les yeux de ma chair, avec mes yeux physiques, mais que l'on voit avec les yeux du cœur. Donc celui qui fait le lien entre le Père invisible et le frère qui est visible, là encore, c'est la personne même de Jésus, que l'on voit par la foi. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de chacun d'entre vous, en particulier dans la vie de prière, est-ce que nous avons cette perception de Jésus, cette perception du regard de Jésus sur nous et nous à son égard. Est-ce qu'il émerge au centre de notre pensée? C'est le seul moyen pour nous de pouvoir aimer concrètement notre prochain. Il faut que nous voyions Jésus. Il faut que nous le percevions par les yeux du cœur. Il faut en particulier que nous l'expérimentions dans la vie de prière. C'est de là que va découler tout le reste. Et c'est au fond le message de l'ensemble de la première épître de Jean. Tout est en Jésus et sans cette relation, cette connexion intime avec Jésus, tout ce que Jean nous dit par ailleurs dans son épître, nous passerons à côté. Comme le Père m'a aimé, dit Jésus dans Jean 15, 9, ainsi je vous ai aimé. Et dans 13, verset 34, toujours l'évangile de Jean, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Si je ne me sais pas aimé de Jésus, je ne peux pas aimer de l'amour de Dieu mon prochain. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, à partir de cette première épître de Jean, chapitre 4. Est-ce que quelqu'un veut bien terminer par la prière?
Mais Seigneur notre Dieu, merci de ta parole qui nous nourrit, qui nous enrichit. Merci pour que nous avons pu entendre et retenir de ce message, Seigneur, malgré les quelques cafouillages techniques. Seigneur, nous voulons te connaître toujours un peu plus, que tu te manifeste à nous et que nous puissions, in fine, te voir, te connaître tel que tu es. Seigneur, sois aussi avec notre frère Jean-Marie chez lui aujourd'hui. Nous te remettons le reste de cette journée et en particulier les échanges de cet après-midi pour que nous puissions apprendre de toi encore et que nous arrivions à trouver des solutions techniques qui nous permettent voilà, d'être vraiment attentifs à ce que tu as encore à nous dire pour ceux d'entre nous qui resteront. Merci pour la disponibilité de Jean-Marie et le service qu'il rend à notre Église. Amen.
Amen.
Amen.